Voici le journal de Margot Delbière. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Explosion de joie dans les rues de Dakar cette nuit. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko et son second viennent de sortir de prison quelques jours avant l'élection présidentielle.
Après quelques tensions avec son voisin allemand, Emmanuel Macron se rend à Berlin aujourd'hui rencontrer le chancelier. À l'ordre du jour, le soutien à l'Ukraine en guerre contre l'invasion russe.
L'Europe est-elle devenue une évidence? C'est la question à laquelle répondra Jean Lemarié dans son billet politique à 8h15 au lendemain du premier débat des européennes.
Et nous reviendrons sur le remplacement difficile d'une élue, la maire de Poitiers, qui part en congé maternité, mais la loi pourrait évoluer.
Tournant décisif au Sénégal à un peu plus d'une semaine de l'élection présidentielle et après une crise politique provoquée par l'annonce du report du scrutin. Ousmane Sonko, principal rival du président Macky Sall, a été libéré hier soir, tout comme son bras droit Bassirou Diomaye Faye, son candidat pour cette élection. Ils étaient emprisonnés depuis juillet et avril dernier. À l'annonce de leur libération, des milliers d'habitants sont descendus spontanément dans les rues de Dakar. Sur place, Théa Olivier.
Plusieurs centaines de sympathisants se sont agglutinés devant la maison d'Ousmane Sonko. Abi Diao, 38 ans, est venu exprimer sa joie de voir l'opposant libéré.
Ousmane Sonko est l'espoir du Sénégal. On attend du changement. Il faut que notre pays se développe comme tous les autres pays.
Sonko, tu nous as manqué. Les sympathisants ont chanté des slogans toute la nuit. Certains militants sont venus avec des pancartes à l'effigie de l'opposant politique dont la candidature à la présidentielle avait été rejetée pour des raisons judiciaires. Il avait choisi son bras droit, Bassirou Diomaye Faye, pour le remplacer. Il était aussi en détention et a été libéré en même temps que son leader. Se réjouit un sympathisant, Diogo Diouf.
Je suis trop content. Et ça veut dire que c'est la victoire. En fait, Diomaye va gagner les élections et le pays va changer.
Il ne reste plus que 7 jours aux candidats pour faire campagne à cause d'un calendrier électoral raccourci par le report du scrutin initialement prévu en février. Mais Matar Diagasek, président d'un mouvement de soutien à Ousmane Sonko, n'est pas inquiet pour la suite.
Sans lui, on était en train de faire les caravanes. Quand on nous parlait de sa sortie, on était en caravane, on sillonnait le pays. Donc on est revenu pour l'accueillir. Et demain, on ira encore en caravane.
La loi d'amnistie votée la semaine dernière a permis la libération des deux opposants.
Scrutin au Sénégal prévu donc le 24 mars. Au Venezuela, la date de la présidentielle est fixée au 28 juillet. Et hier, Nicolas Maduro a annoncé être candidat pour un troisième mandat. Rien de très surprenant, même s'il est impopulaire. Élu une première fois en 2013, il avait été réélu en 2018 lors d'un scrutin contesté et boycotté par l'opposition. Dans ce contexte, Nicolas Maduro adapte une fois de plus les règles du jeu démocratique en sa faveur. La correspondance d'Alice Campagnol.
Si Nicolas Maduro n'a jamais eu la popularité de son prédécesseur et mentor Hugo Chavez, il est aujourd'hui tout en bas des enquêtes d'opinion. Alors il lui faut mettre en place des stratégies, comme l'explique Benigno Alarcón, professeur de sciences politiques.
Les gens qui soutiennent Maduro, c'est environ 9% de la population. La tendance chaviste, son parti, c'est 20%. Donc quelles sont les options? D'abord que tout son parti vote pour lui, même les membres qui ne sont pas en accord avec sa politique. Et donc, il déploie beaucoup d'efforts pour faire vivre la mémoire de Chavez. Et c'est pour ça que l'élection a lieu le jour de l'anniversaire de Chavez.
Nicolas Maduro cherche également à ce que les électeurs qui ne lui sont pas favorables ne se rendent tout simplement pas aux urnes.
Le gouvernement n'aide pas les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales, car le vote jeune est anti-gouvernement. Il y a seulement un bureau pour s'inscrire dans chaque région.
Idem pour les plus de 7 millions de Vénézuéliens qui ont quitté leur pays, les consulats ne facilitent pas leurs inscriptions. Et la mesure la plus radicale de toutes est évidemment l'inéligibilité de la leader de l'opposition, Maria Corina Machado, interdite par une justice à la botte du pouvoir, de se présenter à une élection pendant 15 ans.
L'armée israélienne nie avoir attaqué cette nuit une foule qui attendait de l'aide humanitaire dans le nord de la bande de Gaza. Il y aurait au moins 20 morts et plus d'une centaine de blessés à un point de distribution selon le ministère de la Santé du Hamas. Si la Russie gagne la guerre en Ukraine, elle ne s'arrêtera pas là, prévient Emmanuel Macron. Interrogé sur TF1 et France 2 hier soir, le président français estime que les Européens doivent être prêts à répondre à une escalade de Moscou. Mais précise-t-il, jamais jamais nous ne prendrons l'initiative. Emmanuel Macron attendu en Allemagne aujourd'hui à ce sujet. Il rencontrera le chancelier Olaf Scholz et le premier ministre polonais Donald Tusk. Les trois dirigeants ont prévu de réaffirmer leur unité et leur soutien à Kiev. Paris veut aussi apaiser ses relations avec son voisin allemand. À Berlin, Sébastien Baer.
Il y a d'un côté un chef de l'État, Emmanuel Macron, souvent perçu en Allemagne comme un va-t-en-guerre, adepte des déclarations tapageuses, et de l'autre, le chancelier Olaf Scholz, réputé prudent et réservé et qui redoute une escalade dans le conflit. L'hypothèse formulée par Emmanuel Macron d'envoyer en Ukraine des troupes au sol a surpris et agacé Berlin. Depuis, le malaise s'est installé entre les deux dirigeants, avec des divergences étalées sur la place publique, ce que regrette Wolfgang Ischinger, l'ancien ambassadeur d'Allemagne aux États-Unis, interrogé sur la chaîne Welt TV.
Il est du devoir de chacun de faire tout ce qui est imaginable pour parvenir à l'unité et à une action commune. Si l'Allemagne et la France affichent leur désaccord devant les Russes, où pensez-vous que les bouchons de champagne vont sauter ? Pas à Washington ni en Italie, mais à Moscou.
L'entretien bilatéral prévu en milieu de journée entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz devrait aider à aplanir les différends, mais Mark Ringel, le directeur de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg, relativise les tensions.
C'est pas si grave que ça, parce qu'il y aura toujours des discussions, toujours peut-être aussi des conflits. C'est le signe des démocraties vives. Et on a vu ces désaccords avec tous les couples. Il y a toujours eu des discussions, mais en fin de compte, on arrivait toujours à trouver une solution, même s'il y a des discussions qui sont des discussions très très stratégique, très très difficile.
Emmanuel Macron et Olaf Scholz se sont au moins d'accord sur l'essentiel. La Russie ne doit pas gagner la guerre. Reste à trouver une réponse commune à cette question. Comment aider l'Ukraine à l'emporter ?
L'Ukraine qui était l'un des sujets de discussion hier sur Public Sénat lors du premier débat télévisé des européennes. On y revient dans le billet politique de Jean Lemarié juste après ce journal. Ajoutons que c'est à partir d'aujourd'hui que les Russes votent pour la présidentielle et Vladimir Poutine, sans surprise, devrait être réélu.
7 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. La maire de Poitiers sera à partir de ce soir dirigée par un binôme.
La mairie, oui, les deux premiers adjoints vont assurer l'intérim pendant les 2 mois du congé maternité de la maire, Léonore Monconduit. L'élu écologiste avait alerté il y a 1 mois sur les difficultés de se faire remplacer pendant cette absence provisoire. C'est donc un binôme qui prend la suite, faute d'avoir pu se libérer à plein temps. Mais la loi pourrait évoluer, Laura Dulieu.
La première adjointe à la mairie de Poitiers, Ombline Dagicourt, est aussi enseignante dans l'éducation nationale. Et même si la loi indique qu'en cas d'empêchement de la maire, ce sont les adjoints qui doivent prendre le relais, elle n'a pas pu se libérer à plein temps.
Au lieu de 18 heures de cours, je serai donc à 9 heures par semaine. De ce fait-là, Stéphane Alouche, qui est le deuxième adjoint en charge des ressources humaines, va aussi m'épauler. De son côté, il a dû prendre des jours de congé. On a dû bricoler, c'est vrai, une organisation qui est sur mesure. Donc on s'est réparti les missions pour couvrir à nous deux l'ensemble des dossiers qui sont en cours et évidemment continuer à être en relation avec le terrain, c'est extrêmement important.
La prise de parole de Léonore Monconduit a porté ses fruits, elle qui alertait aussi sur la question de ses revenus. Elle ne touche pendant son congé que les indemnités journalières de la Sécu. La semaine dernière, la sénatrice centriste Françoise Gatel a donc proposé 2 amendements dans la proposition de loi sur le statut de l'élu. D'une part pour maintenir la rémunération d'une élue pendant son congé et d'autre part pour obliger les employeurs à libérer l'adjoint qui doit la remplacer, des mesures essentielles à la démocratie selon elle.
Les élus qui sont en activité professionnelle, qui à un moment diminuent leur temps de travail, se retrouvent pénalisés parce qu'ils ont une baisse de revenus, ils perdent des points de retraite, qu'il faut absolument qu'on compense ça, parce que l'idée c'est pas qu'un élu soit favorisé, mais qu'on permette que tout citoyen qui veuille se présenter ne soit pas pénalisé financièrement parce qu'il est élu et qu'il consacre et son énergie et son temps à servir la cause commune.
La proposition de loi a été approuvée à l'unanimité. La sénatrice espère que ce même texte sera inscrit à l'agenda de l'Assemblée nationale en vue des prochaines municipales de 2026.
Il existe depuis le 1er janvier des pôles judiciaires spécialement dédiés à la lutte contre les violences intrafamiliales. Alors qu'en 2022, 245 000 personnes ont été victimes de violences conjugales et que 118 femmes sont mortes sous les coups de leur compagnon ou de leur ex, le ministère de la Justice a recensé 94 féminicides l'an dernier. Ce pôle doit faciliter le partage d'informations entre les différents acteurs d'un tribunal, par exemple. Certains avaient déjà anticipé la nécessité d'agir. C'est le cas de la Cour d'appel de Poitiers, dont la première présidente, Gwenola Jolicoz. Elle estime notamment qu'il faut savoir, en tant que juge, se remettre en question. Écoutez.
Moi, je crois très profondément que pour mieux juger, il faut mieux comprendre. Si nous ne comprenons pas le phénomène global de la lutte contre les violences faites aux femmes et si nous n'avons pas une idée très précise de l'ensemble de ces concepts qui se sont développés au fil des dernières années, eh bien nous sommes de moins bons juges. J'ai été une jeune juge aux affaires familiales et j'ai fait des choses qu'aujourd'hui je ne referai plus. Je pense que c'est important de savoir, en tant que professionnelle, avoir une certaine introspection et un recul sur ses pratiques professionnelles. Oui, j'ai changé. Je ne suis plus la même juge qu'il y a 20 ans et heureusement. Entre-temps, j'ai appris, j'ai lu, j'ai compris. Et des choses qui me semblent aujourd'hui infaisables, je les ai faites. Un des meilleurs exemples, le plus simple, bien sûr, c'était cette doxa qui était développée dans les tribunaux, qui nous faisait croire qu'un mauvais mari pouvait être un bon père. Et nous savons aujourd'hui que c'est faux, que lorsque monsieur frappe madame devant les enfants, évidemment c'est un traumatisme familial et que imposer des droits de visite et d'hébergement ou même parfois des gardes alternées dans ces conditions, ça n'a pas de sens. Pourtant à l'époque nous le faisions.
Gwenola Jolicoz, la première présidente de la Cour d'appel de Poitiers au micro de Florence Turm qui signe le grand reportage de France Culture ce soir à 17h. Violence familiale, le nouveau combat judiciaire. Il est réalisé par Annie Brault et présenté par Aurélie Kiefer. 94% des Français interrogés déclarent s'informer quotidiennement et près d'un sur deux dit le faire sur les réseaux sociaux. C'est le constat d'une étude menée il y a quelques mois par l'ARCOM, le régulateur des médias, auprès de 3400 personnes. Étude dévoilée hier. La télévision est et reste le premier mode d'accès à l'information, suivi de la radio. Et juste derrière, il y a les moteurs de recherche quasi ex aequo avec les réseaux sociaux, Aurore Richard.
Chez les jeunes, les moins de 25 ans, les réseaux sociaux sont même la première source d'information. Ils sont malgré tout très rarement utilisés de manière exclusive. C'est le cas pour certains jeunes, CSP+, et ayant fait des études supérieures. Mais la grande majorité combine plutôt les réseaux sociaux à d'autres sources comme la télévision, la radio et la presse. L'ARCOM précise d'ailleurs qu'un quart des Français utilisent X, Facebook ou YouTube pour accéder aux informations produites par les médias. Pourquoi s'informer sur les réseaux sociaux? La raison principale, selon les Français interrogés, c'est qu'ils y trouvent des éléments qui ne sont pas ailleurs. Parmi les autres arguments, il y a les formats, vidéos, très courts, la sécurité d'être face à des actualités qui les intéressent vraiment avec le recours aux algorithmes. La liberté d'expression est aussi citée comme l'une des explications. Malgré tout, les Français sont très lucides. 92% des sondés assurent savoir que les réseaux sociaux peuvent diffuser de fausses informations. Être exposé à cela les dérange et c'est même la plus grande peur de ceux qui utilisent TikTok, Instagram ou Twitch pour s'informer.
Aurore Richard. Il n'avait que 58 ans. Sylvain Luc, l'un des plus grands noms du jazz français, est mort brutalement cette semaine. Le guitariste était acclamé dans l'Hexagone comme à l'étranger et récompensé tout au long de sa carrière par les prix les plus prestigieux. Une carrière en solo, mais aussi des collaborations avec de célèbres jazzmen de notre temps. Portrait signé Louis-Valentin Lopez.
Sylvain Luc avait intitulé l'un de ses albums « Roco, le jeu en basque ». Et ce n'est sans doute pas un hasard tant le natif de Bayonne aimait s'amuser avec la musique, avec un sens de l'improvisation qui sidère Alex Dutille, producteur de l'émission Open Jazz sur France Musique.
Sylvain Luc, c'était un jazzman qui suait l'improvisation par tous les pores. Quand on lui donnait n'importe quelle mélodie la plus banale, il en faisait un petit bijou et c'était une jubilation permanente faire de la musique pour Sylvain Luc.
Lauréat du prix Django Reinhardt de l'Académie du Jazz, d'une victoire du jazz décrochée avec le Trio Sud en 2003. Sylvain Luc, c'est une carrière solo, mais aussi des collaborations avec les plus grands noms. Un homme qui avait le sens des rencontres, dit Alex Dutille.
Sylvain Luc, on ne peut pas le détacher de ses duos avec Richard Galliano, avec Stéphane Belmondo, avec Jackie Terrasson, avec Michel Portal. Un art de la conversation chez Sylvain Luc, qui était aussi une vision de la musique pour lui. La musique, c'était pas pour ne rien dire, c'était pour dire et échanger avec un autre musicien.
Le guitariste avait aussi travaillé avec Michel Legrand, pleuré aujourd'hui par tous ceux qui l'ont connu, qui louent sa virtuosité comme son humilité. La disparition de Sylvain Luc laisse un silence assourdissant dans le monde du jazz.
Louis Valentin Lopez, Météo France prévoit un temps perturbé sur le nord du pays aujourd'hui, avec cet après-midi des averses qui pourront tourner à l'orage. Du soleil en revanche près de la Méditerranée, 13 degrés maximum à Cherbourg, 15 cet après-midi à Paris, Metz et Marseille, 19 à Grenoble et Perpignan.